Alors le carré magique, Louise, bon, oui. Je pose la question depuis le début de l'émission, est-ce que tu faisais vraiment partie du carré magique? C'est un peu de provoque bien sûr, car la réponse est oui, mais le premier carré magique, Patrick, il se fait sans Louise. C'est pour ça aussi que je pose cette question.
Alors j'attends, je peux parler Louise?
Tu peux parler, je t'explique une chose Patrick.
Oui. Explique-moi librement, tranquillement,
tu te mets à l'aise et tu dis ce que t'as envie de dire. Et si t'as des choses qui peuvent éventuellement être contraires, j'aurai l'occasion de faire une petite sonnerie pour t'arrêter. Vas-y, tu peux enchaîner, Patrick, maintenant.
Bon, donc.
Et c'est vrai que le carré magique, ça a commencé sans moi. Ça, j'ai le souvenir. C'était en Espagne.
C'est en Espagne. Et l'expression carré magique est utilisée par Gérard Hernault, qui était le grand oui. écrivain de l'équipe. Et à l'époque, faut dire aux jeunes auditeurs que les journalistes qui écrivaient dans l'équipe écrivaient leur papier en direct. Voilà. Ouais. Bon, et le carré magique avait joué une première fois contre l'Irlande du Nord. Ils avaient gagné 4-1, très bien.
C'est 81
82.
Ouais. 82 en Espagne,
oui, bien sûr.
Alors qu'ils jouent un premier match, mais à ce moment-là, on ne parle pas de carré magique. Et pendant cette demi-finale, Bernard Genghini, à la 51e minute de jeu, est obligé de sortir parce que Manny Kaltz lui a buté le mollet et il l'a fait exprès. D'ailleurs, Genghini en souffre encore aujourd'hui. Et Gérard Hernault, dans son compte-rendu, mais quasiment en direct, écrit une phrase, est-ce le premier accro dans ce fabuleux carré magique?
Ouais.
Et donc, la première fois où l'expression carré magique est arrivée, c'est sous la plume de Gérard Hernault, la demi-finale à Séville, ça doit être le 7 ou le 8 juillet 1982.
Voilà.
J'ai pas dit de bêtises, là, hein.
Non, je te suis.
Voilà.
Mais,
et puis 82, après, c'est ton époque à toi. Moi, je rentre après 82, je rentre en novembre 82.
Et tu rentres le 10 novembre.
10 novembre, exactement.
Et tu sais ce qui s'est passé le matin du 10 novembre?
Non.
Brejnev est mort à Moscou. Voilà. Léonid Brejnev est mort. Il y a eu deux grands événements dans le monde.
Il y a eu la mort.
On les met sur le même plan dans l'histoire.
Et la première sélection de Louis.
C'est ça.
Il faut savoir aussi que Louis est rentré le 10 novembre 1982 contre les Pays-Bas à Rotterdam et les Français ont gagné. Mmh. Et Louis a joué tous les matchs de l'équipe de France. Ensuite, derrière, jusqu'à la demi-finale à Guadalajara en mois de juin 86. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui lui qui détient ce record de continuité du nombre de sélections en continu.
Encore un de plus.
Ça doit être 33 ou 34.
Quand Louis arrive, Patrick, il modernise en fait le carré magique. Déjà géométriquement, il le change un peu.
Il
l'équilibre, on va dire.
Voilà, Louis. C'est Gigi qui m'a expliqué ça, parce que moi, tu m'as connu, tu sais bien que j'ai jamais rien compris au foot, hein. Bon. Donc c'est Gigi qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, pour moi, en Espagne, on était plutôt un losange magique, hein. C'est-à-dire qu'il y avait Platoche un peu en pointe. Ouais. De chaque côté, il y avait Genghini et Gires. Et derrière, il y avait Jeannot, Tigana. Ouais. Et il m'a dit, pour moi, le véritable carré magique, c'est arrivé à partir de 84, du match contre l'Angleterre au mois de février 84, match amical au Parc. Et là, avec Louis, qui était plus en retrait, il y avait vraiment deux types en retrait, c'était Louis et Jeannot, et deux types devant eux, Gigi et Platoche. Ouais. Et là, pour Gires, le vrai carré magique, c'est à ce moment-là. Donc, pour Alain, pour Gigi, tu vois que le vrai carré magique, c'est avec toi, Louis.
Non, mais je sais, mais ce qui est fort, qu'il faut le dire, c'est que Michel Hidalgo a quand même eu le courage de mettre Platini, Genghini et Gires quand même. Il fallait oser, il fallait tenter.
C'est de la folie. En demi-finale de Coupe du Monde contre la RFA, c'est dingue.
C'est pour cela que c'était un peu ce jeu à la française. Alors, tu as cette Coupe du Monde, on l'a tous regardé, on a tous pleuré contre l'Allemagne, on était tristes. Quand, en novembre, il n'y avait pas le carré parce qu'il en manquait un ou deux dans ce match face à la Hollande. Moi, quand je l'intègre, quand je rentre dans cette équipe, je peux te dire tout simplement, c'est que je suis heureux de pouvoir,
D'ailleurs, dans le livre, j'ai découvert que à ta première sélection, t'as pas dit un mot, Louis.
Non, je
et que le vrai Louis est arrivé après.
Je ne disais jamais
le
rien.
Le chambreur.
Non, Louis.
C'est pas vrai, je le disais.
Louis, faut rétablir la vérité. C'est Jeannot qui m'a tout raconté. Mmh. Et Gigi est d'accord avec. Et Platoche est d'accord avec, hein. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, t'es arrivé sur la pointe des pieds. Oui. T'as été, t'étais formidable, t'étais poli. T'as toujours été poli.
Toujours.
Mais, Jeannot m'a dit, le premier match, c'est contre les Pays-Bas, donc, à Rotterdam, en 82. Et il me dit, Louis, dès le deuxième match, c'est-à-dire en février suivant, contre le Portugal à Guimarães, déjà, il était redevenu Louis.
Eh oui.
Ah, ça, c'est ça. Louis.
Hein? C'est-à-dire un peu de tchatch sur le terrain et tout. D'ailleurs, tu le dis.
D'ailleurs, deux gros chambreurs avec Tigana, hein. Dans le carré magique, en fait, c'était vous deux, hein.
Eh, vas-y, raconte un peu. Raconte ta vie avec Jeannot. Votre complicité, raconte-la.
Ça s'est bien raconté dans le livre, en tout cas.
La complicité et la complémentarité entre les uns et les autres dans ce carré, dans ce jeu de cette époque, avec un leader, deux leaders sur le plan technique, dans la créativité qui était Platini ou Giresse, avec un garçon comme Jeannot qui était vraiment un accélérateur de jeu.
Louis, là, t'étais plus proche de Tigana, non? Vous étiez les mêmes.
Non.
Si j'ai bien compris.
On adorait chambrer, parler, discuter, échanger, tout ça, mais je pense que ce qui faisait la force dans cette équipe, c'était entre les quatre, on était assez souvent, voire il y avait une bonne ambiance, une très très bonne ambiance, c'est tout. Moi, j'ai toujours apprécié cela parce que c'était l'entente cordiale, une entente parfaite et tout le monde, moi je savais ce que j'avais à faire sur le terrain, c'est tout, hein, tu sais, quand
entente cordiale, mais ça vous empêchait pas de vous engueuler quand même parfois.
Non. Moi, la seule fois où j'ai vu Michel s'énerver, c'était face au Danemark, le premier match du championnat d'Europe en 84.
Tu parles de Platini là.
Platini. Ouais. Quand il rentre dans le vestiaire. Dans les toilettes, là, il va pour pisser et il commence à élever la voix. Il faut qu'ils arrêtent de jouer ensemble, les Bordelais. Quel Bordelais? Et après, je regarde, c'est vrai. Et toi, pas Batiston, on donne à Tigana, il donne à Giresse, et Giresse, il donne à Lacombe.
Eh oui.
Michel, t'es l'herbe pas. Et après, en deuxième mi-temps, c'est lui qui a marqué le deuxième but.
Ouais.
Voilà, qui a marqué le premier but.
Alors, le premier et le seul d'ailleurs. Hein.
Ouais. On revient
contre le Danemark lors du match d'ouverture. C'est but de Michel.
Le carré magique quand le jeu était à nous. Le livre de Patrick Lemoine. Alors dans ce carré magique, finalement ils sont 5. Et le 5e du carré magique, il est avec nous, Bernard Gengini dans Louis Attaque.
Il est là, Tchouki, Bernard.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Salut Tchouki.
Ça va Bernard?
Salut Patrick, salut Jérôme, salut Louis, salut Jean-Louis.
Et t'as vu qu'ils t'ont retiré du carré magique, hein.
C'est Louis qui vous a retiré, hein.
Oui, Louis, tu es arrivé, tu m'as piqué ma place, mais bon, c'est vrai que le premier carré magique, il était un petit peu trop offensif. Faut quand même rappeler que j'étais un numéro 10 reconverti en numéro 6, donc c'était pas évident du tout, hein.
Non, mais c'est vrai, il y avait que des numéros 10 dans ce. Ils voulaient tous attaquer, ils partaient tous à l'abordage. Il fallait trouver quelqu'un qui reste là, qui reste comme une sentinelle.
Quelqu'un qui bétonne.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que Jeannot, il râlait beaucoup. Il me disait souvent, Tchouki, reste avec moi. Je suis tout seul. Je veux pas pouvoir tout faire tout seul. Voilà.
Mais d'ailleurs, Louis, Tigana, quand tu arrives, profite de ça pour lui aller souvent devant, quoi. En gros, il avait trouvé quelqu'un pour défendre à sa place, non?
Il pouvait se projeter vers l'avant.
Tu le racontes un peu dans le livre, d'ailleurs, Patrick.
Il en avait les qualités pour pouvoir. C'est un accélérateur, Jeannot. Il te l'aura aussi, Tchouki. C'est quelqu'un qui aimait accélérer, qui aimait aller de l'avant, c'était box to box. Jeannot, c'était notre Brésilien, c'était le garçon qui pouvait. Et c'est vrai que souvent, quand on rentrait sur le terrain pour démarrer, tu sais ce qu'il me disait? Il me disait, toi, tu vas te mettre un peu au milieu, on était droite-gauche. Il me disait, toi, tu vas te mettre un peu sur le côté droit, moi, je vais rester axial. J'ai dit, attends, parce que t'as dit, c'est sur le côté gauche qui a bloqué le côté, et toi, tu vas faire pépère tranquille, et moi, je vais me mettre derrière Gigi ou derrière Platini, eux, ils se repositionnent pas, ils se replacent pas, ils vont commencer à carotter, ils vont commencer à rester là-haut, et c'est moi qui va courir le plus. J'ai dit, laisse tomber. Tu sais, avec Jeannot, c'était souvent ce genre de discussion.
Ah ouais, c'est clair.
Ah ouais, les discussions.
Bernard, vous vous sentez membre du carré magique? Parce qu'on peut aussi le dire, le carré magique, il a parfois eu 5 éléments, il a parfois eu 5 côtés,
À Nantes.
C'est arrivé qu'une seule fois.
C'était à Nantes.
Lors de l'Euro 84 à Nantes.
Contre la Belgique.
Où lui, ça a été décalé un petit peu sur le côté droit pour surveiller, je crois, vers Cotterêne. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réflexions, de chambrages un petit peu aussi, notamment de la part de Jeannot Tigana, qui disait, lui, en fin de compte, ton meilleur poste, c'est latéral droit.
C'est expliqué dans le livre, oui.
Mais c'est vrai que ce jour-là, c'est la seule fois où on a joué à 5.
Le Brésil, c'est pas ça aussi en 86?
Je commence à droite.
Hein, ouais.
Mais au bout d'une demi-heure, j'ai demandé un changement parce qu'il y avait, comment il s'appelait?
Branco.
Branco, côté qui n'arrêtait pas de monter, ils étaient en train de me faire la misère.
Quelle culture.
Bah, oui. Là, j'ai dit, à cette moment-là, je préfère mieux me repositionner. On a remis Manuel Amoros à droite et Tussaud est repassé arrière gauche.
C'est Jeannot, hein, qui a décidé de ça. Ouais, c'est Jeannot qui a décidé, après, sur un, après le but que vous avez pris, 5 minutes après, ah ouais. a dit ça peut pas ça continuer comme ça, on va dans le mur. Ah ouais. Et donc Jeannot et Platoche, on dit, Louis, tu reviens, tu sautes, tu vas là-bas, Amoros, et puis voilà, et puis c'est reparti, le carré magique, le deuxième carré magique.
Il y en a un qu'on n'entend pas depuis tout à l'heure quand même, c'est Jérôme Rotten.
Mais
t'as été bercé,
moi,
toi, par le carré magique quand t'étais jeune?
En 84, j'étais très jeune quand même, donc j'ai pas trop de souvenirs. Par contre, 86, oui. Donc, bien entendu, c'est une génération qui m'a fait aimer le football. Tu pouvais que aimer l'équipe de France dans l'attitude, dans la façon de voir le football. Voilà, c'était spectaculaire. On parlait des Brésiliens, mais on aurait pu parler des Français à l'époque. Voilà. Donc, moi, je garde ces souvenirs-là. Après, c'est très lointain quand même. J'étais jeune. J'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc, mais c'est grâce à eux que j'ai pu m'inspirer de pas mal de joueurs.
Et ce qui est aussi, j'allais dire terrible avec le carré magique, c'est que il y a une date de mort en fait, la demi-finale de 86. Et derrière, il n'y a pas eu d'équivalent dans le style. Quoi. On peut pas dire il y a eu un autre carré magique ou voilà.
C'était le désert un peu après 86. On a.
Et pourtant, il y avait des gamins qui auraient pu. Hein.
Ouais. Ouais. Non mais après,
s'ils avaient fait le job vraiment, ils auraient pu prendre en partie une succession quand même. Ils n'ont pas fait le job.
Hein. Là, on a eu une période assez longue ou assez difficile pour reconstituer, pour remettre une équipe de France, une bonne équipe de France.
Opérationnelle, mais avec un autre jeu.
Ouais, mais ça, c'est quand même bien le défaut français, parce qu'à l'époque, moi je me souviens, j'étais encore gamin, mais c'est vrai qu'on voyait des Michel Platini un peu partout. On parlait de Philippe Verquiz, on parlait de Jean-Marc Ferreri. Ouais. T'essayais de comparer à chaque fois, comme sur la nouvelle génération, où souvent on a mis en avant les joueurs qui ressemblent à Zidane, le nouveau Zidane. Les nouveaux Zidane, ils se sont bien cassés la gueule, hein, pour la plupart. Donc, à l'époque, c'était pareil.
Mais il faut dire, alors, moi, je suis convaincu d'une chose. Ce carré magique à 5, que ça soit avec Tchouki, je t'oublie pas, hein, mon Tchouki, hein,
je pense bien à toi.
Que ça soit ce carré magique avec Tchouki ou avec Louis, plus les trois autres, il y a eu un moment où il y a 4 et 5 mecs qui ont pu être en osmose totale. C'est juste, c'est à la limite un hasard de l'histoire. Et quand même, et vous êtes d'accord, j'imagine tous les deux, avec un génie, on peut raconter humain, c'est Michel Hidalgo, quoi, qu'on salue parce que il a un petit souci en ce moment, donc on le salue bien, le père Michel. Mais vous êtes d'accord, les garçons,
il fallait un entraîneur, et Tchouki, lui, il l'a connu avant moi, et je pense que Michel était vraiment l'entraîneur idéal, qui savait, qui avait cette particularité, c'est de nous mettre dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions pour aborder les matchs, et ses causeries étaient bonnes. Moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié Michel Hidalgo. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Qu'est-ce que t'en pensais, Tchouki, toi?
Oui, tout à fait, lui, c'est un...
La sérénité, le calme.
Voilà, qui nous touchait beaucoup sur le plan humain, effectivement, avec ses mots à lui. Et puis, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, il n'a pas hésité à prendre des risques. Quand il a joué avec 3 numéros 10 contre la Hollande, ce fameux match de qualification au Parc des Princes, ben, il a osé, il a tenté, et voilà, et il a réussi. Donc, moi, je lui dois beaucoup, effectivement, par rapport à cela, mais c'est vrai que c'est un homme qui nous a apporté beaucoup, et après, lors du championnat d'Europe aussi, cette victoire finale, je crois que ça a été un petit peu l'apothéose pour lui, et d'ailleurs là-dessus il a arrêté sa carrière de sélectionneur.
Mais dis-moi, Tchouki, tu vas raconter un épisode, parce qu'on peut dire quelque chose, si Tchouki avait dit oui, il n'y aurait peut-être jamais eu de carré magique. Raconte aux auditeurs ce que tu m'as dit et qui est dans le livre, tu sais, après le match contre l'Irlande du Nord après le match contre l'Autriche, où t'es vraiment très très bon. D'accord.
Bon,
oui.
Tu te souviens. Et après un entraînement, le lendemain, quand Michel te demande, est-ce que tu peux pas jouer ailier gauche? Vas-y, raconte.
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ce match de l'Autriche, c'est le premier match de Jeannot Tigana. Il le doit surtout à l'absence de Michel Platini qui était blessé. D'ailleurs, Jeannot Tigana, il a souvent remercié Paneka, le joueur tchèque qui, le match précédent, avait blessé.
En disant que c'est le meilleur joueur du monde de l'histoire.
Et qu'il avait permis de jouer, parce que jusque-là, c'est vrai qu'il rongeait son frein, il boudait, hein, on connaît le Jeannot, il n'était pas content, il jouait pas beaucoup. Moi, je partageais en même temps sa chambre, donc je suis bien placé pour le savoir. Mais c'est vrai qu'après ce match de l'Autriche, on gagne 1-0, et où Michel ne jouait pas, ben, il était un petit peu ennuyé après, avec le retour retour de Michel sur le match suivant contre l'Irlande. Et c'est vrai qu'un jour après l'entraînement, entre les deux matchs, il est venu me demander, est-ce que Bernard, est-ce que tu peux jouer toi sur le côté gauche, presque ailier gauche. J'ai dit Michel, non, c'est pas ma, voilà, je suis pas assez rapide, moi je suis pas un joueur de milieu, j'ai besoin de toucher le ballon. Mais c'est ça aussi qui était bien avec Michel, parce qu'il savait, échanger, il savait voilà prendre des informations, et ensuite bien entendu il faisait son équipe. Et à partir de ce match-là, effectivement, Michel est revenu dans l'équipe.
Et vous avez joué avec 4 milieux de terrain.
Il a retiré un attaquant, et c'est la première fois qu'on a joué avec 4 milieux de terrain.
Un système qu'il aborait, hein. Il aimait pas du tout le 4-4-2. Ouais.
Le Gengini, c'est, comment te dire, le Roten, c'était le Gengini, hein. Parce que Jérôme avait le même profil de, comme Chucky, pareil, bon gaucher, comme il te dit, Chucky, pas rapide, mais, d'une qualité, d'une adresse et d'une passe lumineuse.
Attention, ça va tomber, Jérôme.
Non, ça va pas tomber. Mais
les gauchers, oui, c'est les gauchers, ils ont quelque chose de différent.
Bernard, merci d'être venu dans Louis Attaque.
Merci à vous, c'était un plaisir. Oui, tu as bien récupéré de ton match du week-end dernier.
Tu l'as vu, et Touki, t'as vu que j'ai encore des jambes pour marquer des buts.
Hein. Tu m'as étonné.
Comment je les ai calmés un peu, les Marseillais, là, t'as vu comment je les ai freinés un peu. Oh, les enfants. T'es toujours là.
À bientôt, Bernard.
Salut, Touki.
Bernard, Louis Sattac. Et merci Patrick Lemoine également. Le carré magique quand le jeu était à nous aux éditions Talents Sport. Franchement, lisez-le. Il y a plein d'anecdotes. Ça permet de aussi de cerner les personnalités, hein. Entre Platini, Louis, Tigana. J'y rêve qu'au-delà d'une association sur le terrain, ce sont des personnalités vraiment très fortes, quoi.
Ouais. Avec notamment Michel, mais ils ont chacun leur personnalité. Et par exemple, on va revenir à ça, juste à Chucky qui a raccroché, qui nous a quitté. Chucky, il a quand même souffert de ne plus être titulaire dans le carré magique, que ça soit en 84 ou en 86. Il a vraiment, t'as dû le voir, Louis, si tu devais te descendre. Il ne s'est jamais, parlé à la radio, aux journaux, et donc pour l'ambiance, c'était formidable.
C'est l'image de ce garçon comme Bernard Gengini. C'est pour ça qu'on avait une bonne génération. C'est pour ça qu'il avait un bon état d'esprit. C'est pour ça qu'on avait cette envie de jouer ensemble.
Et puis les chambrages sont racontés aussi. Ceux avec Alain Giresse, Louis Alain Giresse en chambrage, c'est pas mal aussi. C'est raconté dans le livre. Donc allez lire ça. Merci Patrick.
Merci Patrick.
Merci Genja.
Bonne chance à toi.
Et à toi aussi, Louis, parce que ta vie est pas finie.
Non, on continue encore.
Après la Guinée, c'est dur de s'en remettre. Mais bon.
RMC Football. Aujourd'hui à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury, finale de la Coupe de France féminine, aujourd'hui à Montpellier avec RMC.